Sur la plus rebelle des radios, nous avons pu entendre Mano Solo, Edith Nylon et un instant le facteur et ses grenouilles. Nous poursuivons avec un peu de ska lyonnais et le groupe Melomood.
Enfin, spectaculaire commence, émission 194. Christophe Rollin au micro, Gérald est présent et nous avons une invitée aussi, une metteuse en scène, Aurélie Vandendal, pour parler de L'absence de guerre, une pièce de théâtre donnée actuellement au Théâtre de la Croix-Rousse. Ça a commencé hier mardi 9 avril, c'est donné jusqu'à ce vendredi 12 à 20h. Je n'ai pas indiqué la date, mercredi, le 10 avril 2019, il est 14h06. Misère, quel retard, il faudra pas se rattraper sur le blues des canuts qui aura bien lieu ensuite. Alors, commençons tout de suite avec de la musique. Nous sommes en plein milieu de la pièce, je crois, et nous écoutons cette question très importante pour George Jones, l'Irlande, avec Sunday, Bloody Sunday, chanté par U2. C'est très bien, c'est en rapport, donc bien entendu, puisque c'est en plein milieu de cette pièce, L'absence de guerre, d'HD de David Ayer, une pièce de 1993, qui est donnée actuellement au Théâtre de la Croix-Rousse jusqu'à ce vendredi 12 avril, c'est à 20h. C'est absolument génial, et c'est Gérald qui le dira ensuite, ainsi que Aurélie, metteuse en scène de ce spectacle. Commençons tout de suite avec Bloody Sunday. Vous nous écoutez sur le radiocanu.org, si vous le faites sur Internet, c'est une très bonne chose, ou bien sur le 102.2 de la bande FM à Lyon, et c'est jusqu'à 15h, comme tous les mercredis.
Thank you.
Gérald.
Quel métier.
Bonjour Christophe.
Gérald, c'est nous.
Et me voit.
Bonjour Aurélie, merci de votre présence ici. Avant d'attaquer le cœur du sujet de ce spectacle renversant de 2h30 avec un bord de scène demain à l'issue de la représentation.
Non, ce soir.
Ah oui, ce soir. On est mercredi, mais oui, c'est ce soir.
Mercredi 10 avril.
On n'est plus mardi, je suis encore dans le spectacle.
Et rappelle, c'est ce soir, à
20h.
Qu'est-ce que c'est que le bord de scène?
Le bord de scène, donc, c'est la rencontre à l'issue du spectacle avec des questions, avec toute l'équipe, les comédiens, vous y serez sans doute.
Les huit comédiens.
Qui interprètent d'ailleurs plusieurs personnages, certains.
Et un cadreur plateau, donc ça fait une équipe de 9 au plateau.
Voilà, il y a un gros boulot chez le cadreur plateau. On parlera des spécificités du spectacle. Mais d'abord, Aurélie, un petit autoportrait. Quand vous choisissez la longueur.
Alors moi, je suis Aurélie Van Endel, je suis metteur en scène et directrice artistique du Doug Doyne Group. Donc c'est un groupe de travail qui réunit un peu des forces vives, on aime bien dire ça, des forces vives de la création.
Parce que quel est le sens de ce Doug Doyne Group? Ça veut dire quoi? C'est une expression, c'est ça?
Voilà, c'est une expression flamande qui voudrait dire faire du bien, être agréable. Donc en réalité, parfois, on est plutôt dans bouleverser un peu les codes.
C'est ça?
Doug Doyne Group.
Oui, groupe. Ouais. Mais vous, c'est groupe, mais en flamand, l'expression, c'est pas comme ça.
Non, Doug Doyne. C'est
l'expression. Doug Doyne.
Ouais, voilà.
Quitte à secouer les gens.
Voilà. Et groupe, c'est pour nous très important parce qu'on travaille vraiment collectivement. On n'est pas un collectif parce qu'il y a quand même une metteur en scène et voilà, je suis à l'origine du choix des textes. Mais par contre, on travaille vraiment collectivement, autant les auteurs que le collectif technique avec qui on travaille, c'est le collectif In Vivo.
Et alors vous, Aurélie, d'ailleurs, vous avez dit à l'instant, alors metteur, ou moi j'ai lancé metteuse en scène.
Non, dire les metteurs.
Maintenant on dit metteuse, comme ça on repère que je suis une femme. Voilà, moi je suis metteuse en scène. Et j'ai d'abord commencé par une formation de comédienne, et puis ensuite je me suis orientée vers la mise en scène, un petit peu parce que le plateau, j'ai un peu eu envie de me mettre un peu dans le noir, de regarder mes camarades jouer, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et je me suis dit, ce serait bien aussi que je puisse leur transmettre des choses. Et puis finalement, je me suis sentie tellement bien dans cette place que j'y suis restée. Voilà, et donc j'ai un peu pérennisé ça avec une formation au Conservatoire National à Paris de mise en scène. Voilà.
Mais comment vous y arrivez à cette place sur les planches, enfin du moins au goût du théâtre, Aurélie?
Alors, moi, ma mère, elle m'a inscrit à peu près à toutes les activités possibles et imaginables pour m'occuper. Donc le volleyball, je me suis cassé le doigt. La GRS, j'ai emmêlé mon ruban. La poterie, j'étais absolument nulle, c'était affreux. Donc elle était un peu désespérée, elle voulait absolument m'occuper. Elle m'a un jour inscrit au théâtre. Ça a été une révélation, mais vraiment une révélation. C'est-à-dire quelque chose qui a totalement transformé ma vie. Après, j'ai mis du temps à vraiment le mettre en œuvre. Parce que j'avais pas vraiment une famille qui avait envie que je fasse ça. Donc j'ai fait de longues études universitaires de droit, mais avec toujours cette envie de faire du théâtre. Et puis finalement, à un moment donné, la nécessité, elle a été plus forte que tout. Et donc, je me suis engagée dans cette aventure de théâtre et de compagnie.
De l'écriture aussi, où vous avez évoqué donc le jeu en tant que comédienne, la mise en scène aussi un peu par la suite, et l'écriture, êtes-vous dramaturge ?
Non, moi je n'écris pas, par contre j'aime beaucoup le texte, la matière textuelle, et j'aime beaucoup écrire au plateau, donc je fais appel à des auteurs et des autrices. Après, je considère que dans le Doug Doyne Group, on est tous auteurs du spectacle, c'est-à-dire qu'on signe toutes les partitions, on est vraiment dans cet esprit-là, c'est une sorte de grand maelstrom dans lequel chacun a son mot à dire, je dirais, à son écriture à poser.
Sidney, c'est ça, c'est lui, je crois, ce comédien qui joue George Jones, Sidney Ali Maeleb, qui lui ajoute au texte. Hein. Il y a des petits passages qu'il se permet. Gérald, sur quoi veux-tu relancer notre invité?
Bon, j'aimerais savoir si vos études de droit ont contribué à influencer vos choix d'auteur. Votre goût peut-être pour la politique, pour l'histoire immédiate, s'il en est.
C'est sûr, oui, je pense. En fait, ce qui était très intéressant pour moi en droit, c'était de me dire comment la loi, la légalité, en fait, elle conditionne une société, comment en fait ces règles-là, elles fondent notre quotidien, comment on marche dans la rue, comment ça c'est ordonné ou non. Donc ça m'a toujours fasciné, le cadre et comment on peut l'exploser. Je pense que ça, c'est au cœur aussi de nos recherches. Et donc oui, ça, en tout cas, ça a façonné aussi l'idée que pour moi l'art ça se place dans une forme de nécessité. Moi, il se trouve que ma nécessité, je pense qu'elle est politique et urgente.
Local aussi, vous êtes déjà venu à la Croix-Rousse, et puis je lis dans cette petite brochure, elles sont toujours sympas, toujours bien pratiques.
En 2015,
j'appelle ça brochure, c'est même vraiment très 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 maigre.
Vous, 2016.
Le texte de votre présentation se termine avec passionnée par la transmission, elle développe d'importantes actions artistiques. dans les Yvelines, à Paris. C'est donc un peu de droite politique, un peu d'immédiateté d'histoire et la géographie du local, oui, ou même effectivement, on peut évoquer ça, Gérald, tu viens de le dire, vous êtes déjà venu à la Croix-Rousse il y a quelques années.
Oui, à la Croix-Rousse, on est venu présenter un travail qui s'appelait Angels in America de Tony Kushner, qui est une grande saga sur l'arrivée du sida dans les années 80 aux États-Unis, qui était vraiment qui est une très grande pièce de théâtre américain, vraiment qui nous a fascinés parce que ça racontait voilà, les impacts en fait sociétaux, politiques de cette maladie sur une communauté, mais aussi au sens plus large, quel bouleversement ça allait entraîner aussi émotionnel en termes de santé. En tout cas, toutes ces thématiques, elles nous sont très chères, et aussi cette idée de travailler cette histoire des années 80, des années 90, et comment ça peut être mis en perspective avec aujourd'hui le réel. Je crois que dans l'absence de guerre, on sent que ces questions que David Herr soulève sur qu'est-ce que c'est la politique à ce moment de l'avènement des médias, comment en tout cas ça résonne aussi très fortement aujourd'hui. Donc on était très heureux d'avoir présenté cette pièce à la Croix-Rousse, et il se trouve qu'ils nous ont proposé de retravailler ici, de présenter ce projet-là, et puis on en présentera aussi un l'année prochaine. Donc on est très heureux d'être avec eux dans cette confiance mutuelle.
Je reviens encore sur les lieux. Gérald, moi je voulais lancer, là c'est nécessaire. Prochainement, j'ai entendu dire que vous seriez à Verdun, ça a du sens pour vous, oui.
Oui, tout à fait, l'absence de guerre, ça partira en tournée, notamment à Verdun. Et oui, ça a du sens pour nous, parce que pour moi, c'est le lieu de bataille historique, voilà, c'est très important, et ça nomme aussi les parties du spectacle, parce que c'est l'absence de guerre, et donc il y a aussi toute cette réflexion sur qu'est-ce que c'est la bataille, la défaite, la politique, est-ce que c'est la continuation de la guerre en temps de paix, toutes ces réflexions. Donc jouer à Verdun, c'est symboliquement fort pour nous.
Et le lieu donc aussi, je termine là, ces Yvelines, Paris, vous menez une action auprès des publics, c'est ça? Ou intervention, oui, dans les écoles, ou information, masterclass, des choses comme ça?
Oui, oui, oui. En fait, pour moi, c'est important que le théâtre ne soit pas hors sol. Je crois qu'aussi, la pièce, elle parle beaucoup de ça. Elle parle de gens qui sont totalement déconnectés du réel, du public, du peuple. Et pour nous, c'est important que ce ne soit pas le cas pour nous, qu'on ne soit pas que dans des salles noires à créer. Bien sûr, c'est notre activité. Et je pense que quand on a envie de le faire, on est pleinement dedans. Mais après, on travaille aussi à tout ce qu'il y a autour et comment le théâtre peut être un vecteur de lien. Donc on a à chaque fois, nous on était artistes associés au théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie, mais aussi dans les Yvelines à la ferme de Belle et Bas, et à chaque fois on a mené un travail qui est assez proche de nos créations, c'est-à-dire on n'intervient pas pour transmettre le théâtre en tant que qu'art général, mais vraiment pour aussi se dire comment une pièce se saisit d'une thématique et comment nous on peut la poursuivre, et même que ça nourrisse nos recherches
dans la réalité.
Dans la réalité.
Je n'ai pas dit la vraie vie, j'ai horreur de cette expression, la vraie vie ça n'existe pas. Mais la réalité, on n'est pas sûr.
Vous dites beaucoup « nous ». Est-ce que vous pourriez indiquer à quel degré il y a vraiment un « nous » ? Donc vous êtes metteur, metteuse en scène, il y a les comédiens aussi qui font partie de cet ensemble. Et puis alors ensuite, tout à l'heure, vous évoquiez hors antenne des créateurs sur tout plan, vidéo, sonore, lumière, c'est...
Et scénographie, ouais, dispositif scénographie, scénique.
Costume,
ouais.
Le décor.
Bien sûr, ouais, ouais. En fait, oui, je pense que le « nous », il est très important pour nous, mais aussi pour moi, je crois vraiment, parce que en fait, je ne considère pas la mise en scène comme un art un peu vertical, c'est-à-dire je ne suis pas une sorte de tête pensante qui donnerait tout, pas du tout. Au contraire, on est vraiment un ensemble et on fonctionne en se nourrissant les uns les autres. C'est vraiment des vases communicants, donc ce « nous », il est extrêmement important. Et c'est vrai que Art Total aussi, c'est important, je pense, pour moi. C'est-à-dire, je trouve que le son, c'est un vecteur d'émotion pour le public, mais aussi pour l'acteur. Une scénographie, c'est un espace dans lequel il évolue, qui lui permet de créer des situations. La vidéo, là, c'est au cœur de notre projet, mais aussi la lumière. Et donc, à chaque fois, pour moi, ça, c'est des outils dont l'acteur peut se saisir ou non. Et en fait, on écrit vraiment ensemble. Donc, il y a aussi ce présent du plateau qui est très important.
Pour l'absence de guerre, vous avez bénéficié de la collaboration artistique de Mara Bijeljak.
Ah oui, très importante.
Alors, quel a été un peu son apport et votre collaboration?
Oui, Mara, c'est vraiment ma collaboratrice. Elle avait déjà suivi le précédent projet Angels in America, puis elle a joué, parce que nous aussi, on aime bien que ce ne soit pas des fonctions un peu cadrées. Donc, il y a certains techniciens qui parfois jouent. Voilà, là, Julien Dubu, qui est le créateur vidéo, c'est la première fois qu'il est cadreur au plateau. Donc, en tout cas, les rôles tournent. Et Mara, c'est vraiment un œil extrêmement précieux, qui connaît très bien le travail, qui va aussi pouvoir parler aux comédiens de son prisme à elle, qui est un prisme de jeu, qui est un prisme d'intériorité. Donc c'est un regard regard extrêmement précieux sur elle est le guide, c'est-à-dire elle sait où je veux aller, et parfois voilà, elle va me redire est-ce que ça c'est vraiment le sens aussi de ce qu'on veut dire. Donc c'est vraiment un regard qui accompagne et qui permet aussi souvent de désamorcer, parce que quand on monte une pièce comme ça, le risque c'est aussi d'être dans la même adrénaline que les personnages.
Ouais, il faut un peu de recul. Ce serait un peu le rôle d'un assistant de direction, un assistant au cinéma.
Oui, je fais pas de cinéma, alors je sais pas.
Vous faites des citations cinématographiques, vous adorez utiliser la vidéo, vous êtes cinéphile.
À fond.
Et d'ailleurs, dans le spectacle, on le sent, il y a peut-être beaucoup de citations qui nous sont passées à côté, peut-être, ou on est passé à côté de ces citations, mais il y en a forcément.
Oui, le cinéma, c'est super important pour moi, c'est à la fois des références esthétiques et aussi la notion de, je pense que le théâtre, c'est un plan large qui me satisfaisait pas totalement souvent, donc l'utilisation de cette vidéo, c'était important pour moi, pour me dire comment on fait des gros plans au théâtre, qui est la question récurrente quand on utilise de la vidéo, et comment on les saisit aussi dans des moments extrêmement intimes. Donc on parle souvent en termes de références cinématographiques, à la fois dans les travelling, mais même là par exemple l'idée du plan séquence que Julien Dubuc mène pendant ces 2h30, c'est aussi c'est pas que esthétique, c'est aussi de se dire, nous il y avait une de nos références, c'était le film Victoria, qui est un film berlinois, qui a un plan séquence dans Berlin toute une nuit. En fait, le réalisateur, il avait beaucoup parlé de l'adrénaline pour les acteurs, d'avoir des points de rendez-vous, de retrouver leurs accessoires, et ça pour moi c'était fascinant, de me dire comment le cinéma peut s'inspirer du théâtre et inversement. Et là en fait, le plan séquence les met dans un endroit où en fait il n'y a pas de temps mort, on est dans c'est quelque ça. Chose de performatif qui avance
en permanence.
Et c'est aussi l'imbrication des médias qui le créent.
Un monde d'écran.
Mais une de nos références, c'est David Lynch aussi pour toutes les échappées espaces mentaux qu'il peut c'est y ça. Avoir, pour sa folie, mais après il y en a plein. C'est vrai que par exemple en termes de direction d'acteur, moi j'aime beaucoup Xavier Dolan qui travaille beaucoup avec des contres. Donc en fait ça c'est des références comme ça un peu pivot pour nous qui sont des sortes de langages communs.
Ce serait plus ces langages cinématographiques-là que Wells ou que voir la Depardon qui avait suivi la campagne de Giscard d'Estaing. Ouais. Vous l'avez regardé quand
on
même.
On a regardé. Ouais.
Vous parlez de. Ouais, allez-y.
Ouais, on a regardé parce qu'en fait, je crois que pour nous, on voulait affirmer aussi que c'était pas documentaire. Pour nous, ce qui nous intéressait, c'était aussi vraiment la fable shakespearienne, c'est-à-dire une lutte de pouvoir, mais qui est presque archaïque en fait. Il y a aussi un duel dans la pièce, il y a des oppositions, et il y a vraiment l'idée que ces mécanismes-là sont ancestraux. Ça nous intéressait énormément. Et universel, ouais. Et du coup, peut-être que Depardon, il filme aussi vraiment le réel. Donc, je les regarde pour me dire, parce que par contre, c'est des sources d'inspiration extrêmement grandes. Bah, dans Depardon, il y a tout un moment où il est dans cette voiture, il se recoiffe, là, c'est exceptionnel. C'est vrai que leur tic, leur gris-gris, ça, c'était des sources d'inspiration aussi pour les acteurs et le jeu. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'ils sont sur deux ou non, à quoi ils se raccrochent. Mais après, dans la facture, je pense qu'on voulait vraiment que ce soit pas documentaire.
Oui, plus proche des séries contemporaines alors.
Oui, il y avait
Morgan peut-être.
Oui, et puis une série qu'on adore qui s'appelle Boss, qui est une série qui raconte un peu les rapports de pouvoir autour de la figure du maire de Chicago qui a une maladie mentale et donc il veut pas lâcher le pouvoir et qui est aussi très shakespearienne. Après il pouvait y avoir House of Cards mais après c'était aussi de se dire comment on s'en détache de cette esthétique là. Je crois aussi comment on peut ne pas être forcément naturaliste quand on est devant une caméra. Enfin, il y avait beaucoup de questions aussi. Mais la série, j'aime le suspense de la série. J'aime le fait qu'on a envie de regarder la suite, qu'on est porté par un souffle.
Ça annonce ça, comment ça s'appelle ? Même à la radio, on annonce quelque chose et puis on va lancer.
Teaser, c'est ça ?
Un teaser ou teasing.
On tease.
Moi, je pense à un milliard de choses, mais il serait peut-être temps de faire une courte pause. Tu voulais lire
oui,
un texte ?
Parce que avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais quand même lire, parce que nos auditeurs, auditrices, qu'on n'a même pas salués en début d'émission, donc c'est pas trop tard. Bonjour à toutes et à tous. Et on a voulu tellement aller vite, c'est le compte à rebours. Hein. D'ailleurs, il y a une histoire de compte à rebours dans la pièce. On s'est laissé emballer, là. Donc, je vais vous lire quand même quelques petits mots du magnifique dépliant de Théâtre de la Croix-Rousse, avec cette croix jaune qu'on repère partout.
Pour cette saison.
Né en 1947, David Hare. Mon accent est pourri, mais c'est pas grave. Fait partie de la seconde génération de dramaturges politiques qui commence à écrire dans les années 70 en Angleterre. Entre 1978 et 1997, une douzaine de ses pièces, à commencer par Plenty, sont jouées au National Theatre à Londres, dont il devient le directeur associé en 1984. donc il n'est pas inconnu. Hein. Mmh. Il excelle dans l'art de cerner les turbulences qui affectent tout un groupe social en se concentrant sur un individu. Son analyse s'attaque à tous les rouages de la société respectivement. L'éducation dans Skylight, l'église, la justice et le parti travailliste, en l'occurrence. C'est dans sa trilogie, donc ce qu'on a vu et ce que vous allez voir ce soir avant le bord de scène, ça fait partie d'une trilogie. Dans sa trilogie, Racing Demon, 1990, Murmuring Judges, 1991, et The Absence of War, l'absence de guerre, dont on va parler bientôt, plus précisément, 1993. Ou encore L'Héritage, The Secret Rapture, 1988. David Ayer a écrit deux autres pièces, Stuff Happens, 2004, et The Vertical Hour, 2006, qui ont pour thème la guerre en Irak, et encore le rôle de Tony Blair dans ce conflit. Voilà.
Et David Ayer qui place des références de théâtre dans sa pièce même, puisque le comédien principal, George Jones, ce candidat, se rend au théâtre. Il parle de Molière, il parle également de Shakespeare. C'est vraiment... Toutes les choses s'imbriquent. Moi, je souhaitais seulement dire, on pourrait développer ça ensuite, ça peut être une raison d'inciter les gens à aller voir cette pièce. C'est que cette pièce, c'est pas que du théâtre avec les choses très classiques, Racine, Andromaque, ou je ne sais quoi. Il y a des écrans, il y a du son, et parmi le son, moi, il me semble un collectif. Gérald, moi, la taxe impose.
Allez.
Un collectif. Ouverture de l'album Mezzanine, qui a quoi, 20-25 ans me semble-t-il, avec le titre Angel, ça ouvre l'album. Les nappes sonores, je crois, me semble-t-il, Aurélie, ressemblent un peu à celles de votre créateur sonore. Est-ce que j'ai son nom sur la
distribution? Grégoire Durand.
Grégoire Durand, effectivement.
C'est gros travail de son, et de vidéo et de son.
Donc à 14h28, il est temps de faire cette courte pause pour ensuite revenir plus dans détail sur L'Absence de guerre, qui est encore donnée ce mercredi soir 10 avril avec Bord de Seine, sur les coups de 10h30 ou un peu plus peut-être. C'est encore donné également jeudi, demain et vendredi, c'est tout. Sinon, il faudra aller à Verdun en novembre prochain, peut-être, c'est ça?
Mars prochain.
Oula, mars, mais alors, 2020.
Oui.
Ah bah d'accord.
Bon, il y a septembre, il y a de la tournée l'année prochaine.
Bon, d'accord. Renseignez-vous, tenez-vous au courant. Je vous mettrai des liens pour InVivo, c'est ça?
Pour Doug Dunn Group, InVivo, pour tout ce que vous voulez.
Je mettrai tout ça. Donc, nous écoutons Massive Attack, ouverture de l'album Angel de Mezzanine, 97, 98, je crois. Et puis, nous continuons, bien entendu.
sur Radio Canus 102.2 et on écoute Massive Attacks. Et on reçoit Aurélie Van Dendal,
metteuse
en scène
minutes.
De l'absence de guerre. Il restait deux minutes, on a préféré avancer, puisque l'heure tourne, hein, chers auditrices et chers auditeurs, 14h32.
Et si vous êtes à 20h ce soir, vous verrez, il y a un compte à rebours sur ça.
Voilà, et on a le même aujourd'hui, donc il faut faire fi ça. Vous êtes approprié ce texte, vous l'avez découvert, grâce à Stuff Happens. Racontez-nous cette expérience et la découverte de ce texte, et cette appropriation pour en faire ce qu'on a vu hier.
Eh bien, Stuff Happens, c'est très intéressant, c'est dans la lignée, voilà, il s'inspire toujours de faits réels, c'est le cas aussi dans l'absence de guerre, et là il va écrire vraiment une intrigue autour de la guerre en Irak, l'avant, l'après, avec des vrais personnages, c'est-à-dire il y a vraiment Tony Blair, Rumsfeld, il y a Dominique de Villepin, il les met en scène dans qu'est-ce que c'est les rapports politiques en crise, voilà, autour de cette guerre préventive et de cette notion-là et de l'arrivée des médias. Et j'avais adoré ce spectacle qui est extrêmement...
Bonne mise en scène aussi, oui.
Ah, c'était une super mise en scène, ouais, de William Nadilam et Bruno Frayssinet. William Nadilam, c'est un grand acteur de Peter Brook. Et c'était super parce que c'était aussi une première pour la France, c'est-à-dire accueillir des spectacles qui vont mettre en scène vraiment des personnages réels. Ça, c'est une tradition qu'on n'a pas beaucoup. Et du coup, ce choc-là, il était hyper intéressant pour moi. Nous, on a plutôt une tradition de théâtre engagé, citoyen, mais pas forcément celle-là. Mm-hmm. Du coup, je m'étais intéressée à David Herr, j'avais lu des pièces dont l'absence de guerre, que j'avais aimé, mais je l'avais laissé reposer. Entre-temps, on a travaillé Angels in America et Métamorphose d'après Ovid. Et puis, en fait, j'avais envie de me dire comment on peut parler de politique aujourd'hui sans forcément réécrire une intrigue, comment l'histoire toujours peut nous animer. Et j'ai relu cette pièce et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire autour aussi de cette gauche qui s'effondre.
C'est l'histoire d'un effondrement et d'une débâcle. Si on en vient au cœur du sujet.
L'intrigue, donc.
L'intrigue.
On est en 91, 92, c'est ça?
Ouais.
1991.
David Herr, il va suivre une campagne, c'est-à-dire il est invité à suivre la campagne des travaillistes. Donc, c'est Neil Kinnock contre John Major. Donc le Parti travailliste a quand même énormément souffert par toutes les réformes que Thatcher va mener. Ils sont donnés gagnants, ces travaillistes, et ils autorisent David Herr à rentrer dans le parti et à suivre cette campagne. L'idée, c'est vraiment d'écrire une pièce qui serait un sacre. En Angleterre, le théâtre, c'est vraiment super important. Donc, ce serait génial d'avoir une pièce comme ça à la gloire du Parti travailliste. Et puis, il va suivre une défaite. On spoile pas, mais quand même, c'est une défaite.
Vous le dites sur la petite vidéo du site de la Croix-Rouge.
Alors, tous les ingrédients étaient là, après les souffrances liées au tchatchérisme, pour qu'il gagne les élections.
Pour qu'il gagne, En plus, il y a plein d'éléments qui sont réunis, et puis, il va suivre cette défaite, mais il va quand même écrire une pièce qui est à la fois une critique de cette gauche-là qui est faite de compromis à ce moment-là, de ces masses médias qui arrivent, de l'arrivée de cette communication à outrance. Donc il fait cette critique-là et on est vraiment au début de ça. Et ça nous intéressait beaucoup de se dire comment on retourne aux sources de là où on en est arrivé aujourd'hui.
Mais cette fois-ci, les noms ne sont pas les authentiques, ce ne sont pas les noms de l'époque. Il n'y a pas donc de Major, de Kinnock, vous dites ?
Ouais, Neil Kinnock.
Au contraire, là, c'est l'adversaire qui s'appelle Kendrick. Il y a un truc.
Non, là, il choisit de les fictionnaliser. Bon, je crois que c'est lié quand même à la défaite. C'est extrêmement documenté. En réalité, il y a plein de choses qui se sont passées, dont on retrouve trace quand on fait un peu des recherches. Mais par contre, il en fait des personnages. Je pense pour se protéger. Il paraît que Neil Kinnock n'était pas très content quand il a lu et vu la pièce. Mais voilà, en tout cas, il en tire autre chose, une espèce d'histoire, mais qui raconte quand même le Parti travailliste à ce moment-là en Angleterre, qui fait effectivement écho à là où on est arrivé aujourd'hui, mais aussi à toutes les défaites du socialisme dans le monde.
La France, c'est transposable dans plein de pays.
Je pense que c'est très très transposable. La gauche traverse une crise extrêmement importante. Je crois que ça questionne pas que le clivage gauche-droite, mais vraiment aussi nos démocraties, nos politiciens et à quoi ils ont affaire. Faire aussi en termes de système de communication.
La politique spectacle, la représentativité, enfin tout ce qui fait puissance 10, parce qu'on est dans les années 93, on est dans la vidéosphère, d'ailleurs c'est un spectacle de la vidéosphère, mais 20 ans plus tard, c'est le tout numérique, c'est les réseaux sociaux et on sait l'impact que ça a eu sur les élections dans certains pays.
Que tiens-tu dans les mains, Gérald ?
Eh ben, on est sur Spectaculaire, donc je tiens la société du spectacle, tout simplement.
Guy Debord, quelle date de publication ? C'est combien ? C'est 60 quoi ?
Non, c'est 50...
50 même avant ?
56, 53, 2... Attends, je regarde, excusez-nous, chers auditeurs. Ah non, j'exagère, 67.
Ah bah tu vois.
Ouais, 67. Alors, chapitre 42 quand même. Allez, spectacle est le moment où la marchandise est parvenue à l'occupation totale de la vie sociale. Non seulement le rapport à la marchandise est visible, mais on ne voit plus que lui. Le monde que l'on voit est son monde. Voilà, la production économique moderne. Alors, George Jones n'y comprend rien d'ailleurs, c'est son point faible. Hein.
Non, il comprend rien
à l'économie. Il va passer au virage libéral malgré lui, comme la gauche en 82 ou 3, le virage libéral de la gauche socialiste après la prise du pouvoir de Mitterrand. Il y a plein de points communs à faire avec plein de personnages politiques français aussi. Hein. Voilà, la production économique moderne étend sa dictature extensivement et intensivement. Voilà, dans les lieux les moins industrialisés, son règne est déjà présent avec quelques marchandises vedettes et en tant que domination impérialiste par les zones qui sont en tête dans le développement de la productivité, etc. etc.
Ouais, bah c'est vraiment, bien sûr, c'est sûr qu'on sent que toutes ces notions sont mêlées, économie, politique, spectacle. En tout cas, c'est des concepts. Et puis on sent qu'on n'a pas envie de le déplacer. George Jones, c'est un candidat du socialisme, c'est dit dans la pièce, il peut parler de santé, d'éducation, mais l'économie non, parce qu'il ne faut pas que les gens croient qu'il va être responsable de leur argent. Donc aussi, c'est intéressant toute cette mise en perspective. Voilà, qu'est-ce qu'on peut leur dire au public? Et qu'est-ce qu'ils attendent? Et qu'est-ce qui leur ferait peur? Comment on peut... En tout cas, limiter la casse autour de ça.
Il y a même de l'humour, parce que quand on voit ces feuilles de mémoire, il n'y a que deux mots qui reviennent.
Éducation, santé, éducation, voilà. Santé. Ouais,
éducation, il a santé, il y a comme ça. Le but, c'est d'arracher des voix par tous les moyens, en fait.
Ouais, ouais, bah, il le dit. Hein,
toute la dimension.
Les indécis, bien sûr, il y a vraiment cette idée de faire des lames de fond comme ça et de rappeler à tout le monde au socialisme, en fait. Mais un socialisme extrêmement compromis.
Mensongère, manipulatoire, mais en même temps il y a cette très belle citation de George Jones qui est aussi dans le dépliant, hein. Tous ceux qui arrivent, les politiques s'en disent ravis, quoi qu'il se passe, on fait comme si on l'avait prévu, c'est pour ça que je ne nous aime pas. Le métier manque totalement de dignité, on doit faire semblant de tout maîtriser.
Ouais, ça c'est
très intéressant.
C'est super important pour moi parce que j'ai l'impression que c'est un aveu aussi que George Jones, il n'est pas tout à fait à sa place, mais en cette phrase, elle est très vraie, c'est-à-dire, je trouve que ce n'est pas du tout un lieu commun, c'est vrai qu'on leur demande de tout maîtriser, de montrer que une situation de crise économique, ils doivent avoir une solution immédiate. D'ailleurs, même pour on le voit bien, la réaction de Bush aux attentats du 11 septembre, cette séquence absolument incroyable, on lui chuchote quelque chose à l'oreille, qui est dans Stuff Happens d'ailleurs, et qui est vraiment importante. Donc c'est vrai, lui il dit, on nous demande de tout maîtriser. Et je crois que vraiment George Jones n'est pas à sa place, il préférait être au théâtre qu'en politique.
Ah ben c'est amusant quand justement Kendrick décide d'élection anticipée, le salaud il a fait exprès, il savait que j'allais voir Hamlet ce soir. D'ailleurs moi j'aurais bien aimé mettre la main sur ces billets qui sont exhibés devant la caméra par Andrew en tout début d'heure. Tuesday the April the 9th, donc je suppose que ce soir ce sera Wednesday April the 10th, il y a des tickets qui sont de la compagnie Doug Den Group qui annonce Hamlet qui est donné, je sais plus quel est le théâtre et je pense pas que ce soit indiqué.
Royal Court.
Ouais, Royal Court c'est indiqué. Mais cette pièce, attention, donc là on est en train de dire qu'elle est très critique du parti travailliste, du Labour Party. On est en train de dire que c'est très critique du socialisme. D'ailleurs, donc, existe-t-il encore en France? C'est très délicat comme question. Mais il y a quand même, heureusement, Gérald, ça t'a plu, non? Il y a quand même des charges assez fortes sur les conservateurs. Là. J'ai retrouvé cette réplique de votre traduction. Oui, le problème, c'est le recrutement. Chez les socialistes, dit George Jones, c'est plutôt plus ou moins vers le début de la pièce. La vie est beaucoup moins compliquée hein, pour les conservateurs, ils ont un avantage par rapport à nous. Ils n'ont qu'à demander quelle école a-t-il fréquenté, dans quelle banque a-t-il travaillé, est-ce qu'il est conseiller de la reine. Ils engagent tous ceux qui se vendent mutuellement des maisons, ils donnent un boulot à ceux qui leur vendent leurs actions. Merde, ils ont un régiment entier d'infanterie qui porte le même uniforme et se rassemble autour de drapeaux, une infanterie en béton où tout le monde comprend, ils comprennent tous qu'il n'y a qu'une seule chose. Un seul objectif que tout le monde connaît et que tout le monde défend loyalement, l'argent. L'argent est un maître très simple, mais notre maître à nous est différent et il provoque plus de débats. Notre maître, c'est la justice. Et il n'y a pas deux personnes pour tomber d'accord sur ce qu'est la justice. Donc là, c'est intéressant. Certes, ça se veut, ça termine quand même par être critique sur le socialisme, mais une attaque quand même de ces conservateurs qui est... vous avez un propos politique tout de même.
George Jones, c'est charismatique et on sent que c'est un type bien quand même, qui essaye de faire ce qu'il peut. Hein.
Oui, bien
il a
sûr.
Le charisme d'un Obama peut-être, d'un Abdelmalik aussi.
En tout cas, oui, c'est bien sûr, c'est un pur quand même, hein, George Jones. C'est quelqu'un qui a des convictions et qui dit, voilà, est-ce que la politique, elle peut encore parler de sujets importants? Est-ce qu'il va le dire? Il va le dire, c'est quoi une politique qui dit qu'il y a des sujets trop grands pour elle? Donc je crois qu'il y a vraiment une recherche aussi de pureté, de vérité, mais qui n'est pas naïve. Je crois qu'il y a vraiment une quête aussi métaphysique, existentielle, qu'il retrouve lui dans le théâtre et qui existe aussi pour nous de manière très forte. Bien sûr, il y a une charge aussi assez forte contre les conservateurs, mais aussi, je crois, contre aussi toute une politique du bashing, contre un système. Je crois que nous, on s'attache aussi beaucoup à la machine démocratique, à la machine des élections, comment on fabrique des électeurs, des voix, des sujets. Je crois que ça...
L'émission télé, elle est sévère comme tout. The Nation Decides.
Mais pas totalement caricaturale.
Elle est effrayante, cette émission, c'est terrible.
Ouais. Mais je trouve qu'aujourd'hui, bah voilà, c'est vrai que on a parlé de la société du spectacle, mais aussi, il y a une très belle citation de Duras qui raconte que serait notre société aujourd'hui, extrêmement visionnaire, où elle parle d'un monde d'écran. Et en tout cas, cette émission télé, on sent, c'est une sorte de fosse au lion où il doit absolument aller, parce que voilà, c'est une émission qui reçoit les candidats, et en même temps, ben, il sait qu'il va se faire dévorer. On dit d'ailleurs, c'est une carnassière, c'est extrêmement trivial, elle va te baiser, il le sait, et en même temps, il y va. Et en même temps, nous, on avait envie de le mettre en perspective avec le fait qu'on est au théâtre et que le public, il est là, et comment il peut se faire manger ou non en public.
Mise en scène, il faut en parler.
Il est sans tâche, mais il a ses faiblesses. Voilà le drame de ce George Jones.
Et puisque nous tenons la
honnête,
metteuse...
intègre. Comme tant d'autres, il y en a eu dans la politique française, des gens intègres qui ont quitté la politique tellement ils étaient intègres. On ne va pas les nommer.
Aurélie Van Deldal.
On va faire de la politique après.
Cette mise en scène, par exemple. prenons donc l'exemple de cette scène. Cette scène de l'émission télévisée. Lynn Frank est dans la salle avec un micro. Enfin, du moins, très bien, tu as raison, n'en disons pas
faut
plus.
Faut pas trop spoiler non plus.
Parfait, mais elle mène l'émission depuis les gradins et George Jones siège face au public. Et c'est
comme sur une chaise électrique.
Certes, mais enfin voilà. Donc cette mise en scène, c'est-à-dire vous, votre travail, ça a été pas forcément la scénographie, mais c'est donc direction d'acteur notamment, c'est ça. Mais en fait, c'est une question très ouverte. Je vous en prie, Aurélie, que pourriez-vous nous dire
En fait, pour moi, la mise en scène, oui, c'est aussi trouver le cadre qui permet de faire résonner cette scène-là. C'est-à-dire lui, quand il l'écrit, c'est une scène assez classique. Ils sont tous les deux dans un canapé. C'est une interview. Nous, en réalité, on l'avait testé pendant une maquette, une résidence, et on avait fait deux versions. Une version où le public venait sur scène et une version où lui était seul et cette actrice, Julie Lagadec, était dans le public. En fait, ça a été une révélation pour moi de me dire les niveaux de jeu qui se mêlent, voilà à quoi on assiste, parce que quand même le public pendant toute une partie de la pièce, il est un petit peu dans la position où le mettent les politiciens, c'est-à-dire une sorte d'entité passive, voilà, qui moi me révolte beaucoup même en tant que metteuse en scène. Donc l'idée c'était aussi de se dire comment on fait pour rendre le spectateur actif, pour que les frontières scène-salle elles bougent et que voilà, on soit dans ce va-et-vient permanent. Donc ça, c'était important. Et bien sûr, ça fait partie de mon travail, de me dire comment je crée un écrin aussi pour que cette scène puisse vraiment percuter, je dirais, le spectateur et les comédiens. C'est-à-dire que Sidney, quand il est face à la salle de la Croix-Rousse, c'est sûr que c'est pas pareil que quand il est tranquillement dans un fauteuil. Là, on sent, il y a tout. En plus, parfois, elle interroge quand même le public. Parfois, il y a des réflexions, même surtout, on sent qu'il y a une forme de lâcher prise. Il y a des gens qui disent aussi ce qu'ils pensent à ce moment-là d'un candidat politique.
C'est très touffu, on l'a pas encore dit, mais la compagnie des acteurs et des comédiens est excellente, ils sont tous excellents. Alors, ils déploient une énergie phénoménale qui s'arrête très rarement.
Enfin, 9 interprètes, nous on dit.
Des gens qui n'aiment pas les écrans peuvent penser parfois que ça peut les gêner, le rôle de la vidéo. Bon, personnellement, on a trouvé tous les deux, même Christophe, qu'elle était au cœur même du discours et du projet. Elle n'était pas gratuite.
La sonorisation.
Ça peut saouler, le son aussi très fort, très électro-bruitiste. Ça a du sens aussi. Y aurait-il pas une dimension un peu hystérique dans ce spectacle?
Comme l'est
la politique.
En tout cas, moi, je voulais que ce soit de l'adrénaline. En fait, je me demandais vraiment comment ces gens-là font-ils pour avoir ce rythme de vie, quel est le sens de leur vie. Et ça, ils en parlent, en fait. Ça commence quand même sur ça. Ma génération n'a pas fait la guerre, donc nous, on travaille et on espère que ça nous donnera l'impression de faire le bien. Je crois qu'il y a une quête chez ces gens-là. Et pour moi, il y avait vraiment l'idée d'une pulsation. Il y avait l'idée de que ça soit cardiaque, que les acteurs soient performants, mais au sens où on demande aux politiques de l'être. Donc pour moi, le côté total, c'est plonger le spectateur dans quelque chose de... hystérique, j'aime pas beaucoup ce mot pour son travail, mais pour tout ce que ça a été aussi par rapport au féminin. Mais en tout cas, pour moi, c'est de l'adrénaline. C'est vrai que c'est un shoot d'adrénaline, et je crois qu'il fonctionne à ça. C'est une quête de sens, mais nous, on l'a traduit par de l'émotionnel et en tout cas aussi beaucoup de sensations. Donc, on fait appel au sens des spectateurs. En effet, le son est fort. Il y a de multiples lectures pour les yeux, parce qu'il y a évidemment un écran et puis un plateau. Il y a un espace qui bouge. Tout ça, pour moi, c'est des sollicitations pour aussi que le spectateur soit libre de regarder où il veut, d'écouter comme il veut.
Quitte à être écrasé par tous ces écrans, ces médias. Mais là, on touche une part de vérité, justement.
En tout cas,
à travers ces excès, ouais. Cette débauche quasiment baroque, là.
En tout cas, pour moi, l'excès, c'est un geste, en fait. En tout cas, pour nous, c'était important d'être radical, de se dire aussi, la vidéo, c'est 2h30, on ne veut pas la couper. Le son, c'est total. Il s'arrête à un moment, c'est pour une révélation. Voilà, on aime aussi les gestes extrêmement radicaux, après, qui peuvent diviser.
Oui, bon, il n'y a pas d'entracte, en tout cas, les gens qui n'ont pas forcément la place de la vidéo dans le spectacle ne se sont pas ennuyés 5 minutes, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, en fait. C'est pas mal, déjà. C'est positif, ça dure quand même 2h30.
Il y a une pièce qui était donnée dernièrement au TNP, Petite Iliade, mais le titre était plus complet que ça, En un souffle, et j'ai trouvé que là, c'était peut-être pas tant longue histoire politique, mais belle histoire politique universelle, intemporelle. Et il y a des mois de l'année qui sont donnés, des jours de la semaine aussi, mais pas d'année. On ne sait pas que c'est 90, 11, 12, 13, ça n'est pas indiqué, donc c'est là où ça touche.
Il y a un compte à rebours qui patine pas mal au début et qui permet de voir des choses affreuses, le monde infernal dans lequel on vit, de manière synthétique.
Oliver, mais c'est pas au tout début, Oliver, il se fait bien un rail de coke à un moment donné.
Enfin, oui, bien sûr.
Ah oui, cette énergie, elle vient de partout. Je propose peut-être, tu pensais Gérald que c'était
une allusion.
Moi,
un petit clin d'œil.
Le titre sur l'album Gibraltar, peut-être pas celui qui ouvre l'album, mais non. Le titre, Il se rêve debout.
Ça serait pas mal.
Est-ce que ça pourrait correspondre?
Un truc pas trop lyrique,
Je sais pas, je ne connais pas plus que ça, mais en tout cas, les mots, est-ce que ça peut correspondre à ce George Jones?
Il se rêve
debout.
C'est pas mal.
Alors,
ça.
Ouais,
c'est beau ça.
On essaye.
Allez,
et puis on continue, toujours avec Aurélie Van Dendal. C'est un peu... je sais pas, c'est pour des oreilles françaises, c'est Aurélie Van Dendal. Là, ça va très bien.
Et Abdelmalik.
Aquarium, in vitro, Abdelmalik, pour cette pièce, Absence de guerre. Tu rappelles encore les dates? C'est jusqu'à quand, Gérald?
Jusqu'à jeudi.
C'est vendredi.
Vendredi. Ce soir, jeudi et vendredi.
Et
encore trois soirs.
Ce soir,
à 20h. Et bord de scène ce soir.
Bord de scène, rencontre avec la troupe.
Le spectacle.
Il se rêve debout et ça lui va pas bien parce que sans geste ni parole, il te reste rien. Rien qu'un cœur, et je peux te dire qu'avec cet œil, des fois on voit rien de bien. Il y a des moments comme ça dans la vie où c'est tout ou bien rien. Il se rêve debout et ces derniers temps c'est moins tout que rien. Et puis il n'a ni geste ni parole, il lui reste rien. Rien qu'un cœur pour voir quand de l'amour, et ben y a rien. Et ça va? Il aurait répondu bien. Même si ça va plus mal que bien. Il se rêve debout et à y voir de plus près, c'est triste dans sa condition. Mais vous, à sa place, vous chanteriez quoi comme chanson, hein? Parce que ça change tout d'être obligé de vivre à condition. À condition que les autres, ils se trompent pas lorsqu'ils interprètent votre partition. Il se rêve debout et c'est sans condition qu'il se lève, assis ou allongé, la même chanson. C'est évident qu'il pourra plus jamais danser comme ces cons, comme ces types qu'il dénigrait avant et qui le négligent pour d'autres raisons. Il se rêve debout pour vivre en mourant, pour survivre dans un monde où les morts se prennent pour des vivants. Fonctionnaires d'une existence qui vivent bêtement parce qu'ils ont peur de chaque instant. Ils se rêvent debout et la voilà en blanc. Sourire réflexe et geste indifférent. Bonjour, dit-elle en entrant. Bonjour, dit-il en pensant. Apprécie l'instant comme ceux qui savent que de toute façon tout ça dure qu'un temps. Il se rêve debout quand elle lui parle, il l'écoute. Faut dire qu'il l'était debout avant le drame sur la route. Elle l'entoure de ses bras et le fait s'asseoir. Il lui reste rien, il lui reste ni geste ni parole, mais il peut voir. Il se rêve debout lorsque sur son fauteuil elle le pousse. Dites donc, ça a l'air d'aller aujourd'hui, crie-t-elle. On va vous faire une bonne douche.
On écoute Abdou Abdelmalik, L'homme qui se rêve debout, extrait de son album qui s'appelle
Gibraltar.
Gibraltar.
De 2006.
Oui, c'était un petit clin d'œil à Sydney, parce qu'il a un timbre un peu voisin, beaucoup de charisme.
Le comédien Sydney qui incarne George Jones.
Aurélie Van Den Dalle. Le comédien porte vraiment ce spectacle de manière magistrale.
Encore avec nous pour cette fin d'émission.
Et la capture vidéo. Le capteur vidéo aussi fait un travail énorme en direct. Alors, il y a une confusion, on a parlé d'art total, il y a peut-être quasiment une confusion des gens. À un moment, je me suis surpris à me demander, bon, est-ce que je suis au cinéma, est-ce que je suis au théâtre? Et ça se mélange un petit peu tout ça, et c'est intéressant en fait, comme sensation.
Oui, oui, bah nous, en fait, c'est sûr qu'on aime que ça soit que les frontières soient floues. On aime que se dire, bah voilà, est-ce qu'on fait du cinéma? C'est vrai que ça a déclenché pour nous des envies, des rêves. Mais en tout cas, le mélange, c'était important, ouais. Et moi, je trouve ça bien qu'on puisse pas qualifier. J'aime bien l'idée qu'en ce moment, on arrête de définir les choses trop.
En même temps, on n'est pas tous obligés de dire en même temps. Hein.
Attention, non, hein. C'est vrai. Ni tu sais.
L'absence de guerre interroge notre société du spectacle face à l'homme qui doute. Là, c'était l'homme qui se rêvait debout avec dignité, un pauvre, dont est censé s'occuper le Parti Socialiste, quel que soit le pays d'ailleurs. Quittant son costume d'animal politique, George Jones deviendra individu traqué, notamment par cette terrible journaliste. Nous assisterons à une mue. Mais l'absence de guerre ne raconte pas qu'un destin, elle raconte un mouvement. Voilà, c'est ce mouvement vertigineux qui a le temps, qui ne s'arrête jamais, qui vous porte et vous transporte pendant 2h30, celui d'un courant libéral implacable. C'est aussi celui-là, ce mouvement historique, celui de la fin des intellectuels en politique. Ça, on s'en est bien aperçu. Et c'est pas forcément le retour des intellectuels qu'on aurait espéré actuellement, mais bon...
Est-ce qu'on a dit qu'il y a de tout dans ce spectacle, y compris de l'humour? Moi, je pense je t'entends prononcer George Jones et je pense à la petite réplique qui est faite. Il y a eu un problème quand on a fait une étude, le nom de Grace Jones est ressorti. Et voilà. Donc, résultat, je performe chez les athlètes, les mannequins sud-africains ou je ne sais plus, américains et lancés. Mais en revanche, incapable de chanter juste. Aurélie, encore quelques instants.
À qui s'adresse ce spectacle en priorité? Qui pourrait encore venir?
Mais attention, à tout le monde.
Mais, à tout le monde, bien sûr, mais pas en dessous de 14-15 ans. Hein.
Oui.
Pourquoi c'est... Aurélie,
c'est un peu ardu quand même.
Ben pour moi, c'est vrai que c'est important qu'on parle de politique. C'est important qu'on se saisisse de ces sujets-là, qu'on arrête de peut-être se dire c'est des choses d'initiés, qu'on puisse voilà s'en saisir. Là, on s'en saisit, je pense, d'une manière assez ludique et aussi avec différents arts. Parce qu'on a envie que ça touche. En fait, nous, le travail de transmission dont on parlait au début de l'émission, c'est aussi pour que on puisse parler à tout le monde. C'est-à-dire, oui, à partir du lycée, en fait, les jeunes, ils viennent, ils peuvent venir. En fait, ça leur pose beaucoup de questions sur aussi ce que c'est la trahison, ce que c'est la politique, ce que c'est la puissance de l'image. Par exemple, le début du spectacle dont vous avez parlé, en fait, ils en parlent beaucoup parce que quand même, des corps charnels, c'est autre chose que l'image. Donc, en fait, ça pose beaucoup de questions. Puis après, ben, les férus de série, les férus de politique, les gens qui ont envie de voir peut-être une autre lecture qu'une lecture documentaire de la politique. Et puis je crois que pour nous, en tout cas, c'est vraiment aussi un manifeste qu'on pourrait faire autrement, que la politique, ça pourrait être autre chose, et aussi que nous, on a quelque chose à dire. En fait, on n'est pas spectateur passif de quelque chose qui nous arrive. C'est vraiment aussi, je pense, nous, on avait mis dans notre programme à la cartoucherie, c'est un manifeste. Je crois que oui, c'était un manifeste aussi pour dire que nous, on suffoquait dans cette politique... mass-média, spectacle.
Donc là, c'est du feuilleton du Brexit. Ou alors, aficionados aussi du Brexit. Vous pouvez aller voir ce spectacle. Anglophile, anglophone.
Le mot est placé. Le mot est placé dans le spectacle. Le Brexit est évoqué par...
Oui, alors, en 93, la question se posait peut-être déjà, dans certains courants de pensée, je pense.
En tout cas,
elle s'est toujours posée, je crois.
Il y avait déjà aussi ce problème avec l'Irlande, l'Angleterre, son protectionnisme, tout ça. Ouais, c'est historique.
Auditeurs, auditrices, ça se calme un petit peu là ces jours-ci, c'est peut-être vacances scolaires à venir, donc opéra relâche, il n'y a plus d'opéra actuellement. TNP, s'il y a une pièce qui commence ce soir, mais peut-être que vous pouvez tout de même aller à la Croix-Rousse. Il y a également une pièce au Célestin, hein, Gérald, Le faiseur de théâtre du 9 au 13 avril, une pièce de Thomas Bernhard qui est un peu différente là, c'est un comédien seul sur scène, qui gémit un peu sur le théâtre, c'est intéressant, mais là pour le coup on peut encore le redire, peut-être comparaison, ce qui peut être délicat.
On peut aimer toutes les formes de théâtre pour qu'elles aient un sens, qu'elles soient portées par
dans cette pièce, il y a toutes les formes d'art. Il y a de la musique, la raison pour laquelle on diffusait en milieu d'émission ce Massive Attack, c'est nappe sonore. Il y a également de la politique, puisque Bloody Sunday, on l'a dit en début d'émission aussi, que là, je voulais vous interrompre à un moment donné, Aurélie, puis je me suis dit, non, Gérald me dit que je le fais trop souvent. Pour George Jones, la politique est très importante. Il aimerait parler, éventuellement, il aimerait parler de l'Irlande du Nord. Il ne peut pas le faire. Et donc voilà, Bloody Sunday qui peut être un hommage. Et puis à l'instant, Abdel Malik, juste comme ça, on évoquait Abdel Malik.
Mais c'est pas fini, parce qu'on est quand même sur Radio Canu, et il y a une petite référence dans le spectacle d'hier aux syndicats qui ont disparu, qui n'occupent plus le rôle. Donc, comme on est quand même sur Radio Canu, on va passer Béranger, la chanson numéro 6, le blues parlé du syndicat en français.
Bah pour, c'est possible pour annoncer ensuite le blues des Canucks.
Ah, ça ira bien avec le blues de Neuilly de Pascal.
Je crois que ça va être le mot de la fin. Pour terminer ensuite, qu'est-ce que. Avant de terminer, peut-être. Allez, Aurélie, le mot de la fin. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. On ne veut pas faire. Disons. Nous souhaitons inciter les gens à s'y rendre, mais
les projets, alors
on va pas les forcer. Enfin, c'est il y a plein de choses sur scène et les projets c'est plus tard. Là, tout d'abord, il y a ce soir bord de scène. Quelles questions vous sont posées généralement là? Vous en attendez quelques-unes ou même pas? Ça va être
moi, dans tous les sens. Oui, ça, après ça dépend un peu des endroits. Je pense que les gens ils demandent un peu ce que vous avez demandé. Pourquoi on s'est intéressé à cette pièce? Comment on travaille? Ça, c'est assez important pour les gens en fait de comprendre comment ça s'articule. Et puis qu'est-ce que c'est la part d'écriture et la part d'improvisation? Comment se réalise ça? Puis après, il y a des gens qui parlent aussi des impacts et des résonances qu'il peut y avoir avec aujourd'hui. Nous, à Paris, quand on a joué, c'est vrai qu'on était en plein mouvement des Gilets jaunes. Ben voilà, il y avait beaucoup cette idée aussi des émeutes de Bloody Sunday. Donc il y a aussi, comment ça résonne. C'est un spectacle sur lequel aussi les gens vont dire un peu leurs impressions. Donc on vous dira ce soir.
Immédiate.
Ouais, actualité immédiate, ouais. Ouais, comment ça résonne avec aujourd'hui?
Donc après, on attend le grand débat.
Après le grand débat.
Il y aura un grand débat ce soir en bordure de scène.
Tout à fait, à la Croix-Rousse. On sera très heureux de vous y voir.
Je pense qu'à 14h58, on diffuse ce titre et puis on en reste là. Les annonces, on n'a pas d'autre à faire.
Peut-être... Bon, des vernissages, des expos, toujours plein de choses à voir. Hein.
Ah oui, si, moi je souhaitais annoncer à la galerie B+, la petite rue Chalopin, dans le quartier Saxe-Gambetta, il y a plus ou moins sexe. C'est intéressant, ouais. Il y a des choses qu'on peut constater, qu'on peut voir qui sont...
Et il y a aussi le vernissage à la MAPRA, jeudi soir, de deux nouveaux artistes, dont je ne peux pas encore parler, j'irai voir peut-être.
Bon, vous Aurélie, vous êtes...
Et il y a eu aussi l'expo de... vendredi dernier, on a raté le coche, on aurait dû annoncer le vernissage vendredi dernier à la galerie d'Étinger. Hélène Lagnoux, que nous devrions recevoir très bientôt sur cette... antenne.
Programme des émissions à venir pour nous, relâche, il y a des vacances scolaires, on va les respecter. 1er mai ensuite, mercredi 1er mai.
Respectons les
fête
vacances.
Fête des travailleurs et des travaillistes, nous abstenons le 1er mai. 8 mai, on respecte également cette date. Donc, auditeurs, auditrices,
on préserver des traditions, surtout quand on peut chômer.
On se reverra le 15 mai. Donc d'ici le 15 mai, eh bien, allez au spectacle. Il n'y en a pas tant que ça ces jours-ci. Et me semble-t-il, l'absence de guerre fait partie de ce qu'il faut voir parce qu'il y a un truc qui se produit. Quoi. Et la vidéo, même si c'est trop, en fait, justement, c'est trop. Mais c'est trop dans un sens positif, alors que généralement, trop, c'est plutôt c'est négatif. C'est trop
cohérent.
Fort. C'est trop fort.
C'est consubstantiel. C'est la vidéo est consubstantielle, coexistentielle avec le théâtre. Et c'est fabuleux. C'est un moment très fort.
Blues des Canus à venir a priori dans quelques instants. On n'arrête pas le prog à 17h, Mayday à 18h, Canu Info à 19h, et puis ensuite les bandes continuent comme toujours. Gérald, on écoute Béranger, puis on se dit au revoir.
Donc ciao. Le blues parlait du syndicat.
À bientôt. J'ai entendu, vous allez revenir à la Croix-Rousse, c'est ça?
Oui.
Bon, alors on va voir nos calepins, on va essayer de prendre un rendez-vous. Merci encore à vous, merci au théâtre de la Croix-Rousse bien entendu.
Merci.
Et auditeurs, auditrices, restez à l'écoute des programmes de Radio Canu, et puis c'est très bien. Ciao tout le monde, au revoir.
Ciao.
Je vais vous dire les gars ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire au débile que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer, avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars le plus dur qui reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford ce qu'ils ont compris, et chez Renault ce qu'ils ont compris, et chez Lips ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Ceta aussi, aux joints français ce qu'ils ont compris, un peu partout ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.